Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec Vincent Giuliani. Vincent Giuliani, créateur du Trail de Haute-Provence. Vincent, bonjour.
Bonjour Hugo.
Alors, Vincent, créateur du Trail de Haute-Provence qui a lieu à Fort-Calquier dans le 04, toujours le week-end de l'Ascension ou l'Assomption, Vincent?
Non, l'ascension, l'ascension.
L'Ascension qui est en
Mois de
mai.
mai.
Et tu as créé cette course en 2014. À l'époque, il y avait quatre formats. Le 70 km qui est longtemps resté un incontournable. Le 47 km qui partait déjà un peu en montagne du côté de Saint-Étienne-les-Orgues. Le 18 km qui est le Trail des Mours qui lui aussi est une grande réussite encore aujourd'hui.
Ouais.
Le 9 km, le Trail féminin à Tours.
Ouais.
Et bien sûr, quelques courses enfants pour agrémenter tout cela. Alors, comment t'es venu l'idée, Vincent, en 2014, dans ta belle région autour de Fort-Calquier, d'un coup d'un seul, comme ça, de faire pousser ce trail?
Bon, alors déjà, je l'ai créé, on va dire, je suis le créateur, on va dire, je suis le moteur, mais on est plusieurs à l'origine du projet. On est au tout départ, on était, on va dire, trois à porter le projet, et on a créé l'association Outdoor Events in Provence pour porter le projet, donc avec Céline Bonneau, qui est la responsable médicale et sécurité de l'événement depuis l'origine, et Léonie Goutet, qui est la responsable, on va dire, parcours et logistique. Et puis rapidement, on a été rejoint par trois autres personnes. Florence Gavrel, responsable des bénévoles, pardon, Florence Cornuet, qui était, on va dire, responsable administrative, et puis Valérie Guiliani, qui était en charge de tout ce qui était restauration sur le village. Donc, oui, je suis le moteur, enfin, j'insuffle pas mal d'énergie, mais c'est bien sûr un projet qui ne peut pas se faire tout seul et qui se fait en équipe.
D'accord,
Et
d'accord.
donc, c'était pour juste préciser qu'on n'est jamais tout seul dans un tel projet. On a aussi des chefs de poste, et puis on aura sans doute l'occasion d'en parler après. Et puis un grand nombre de bénévoles qui nous rejoignent tous les ans au week-end de l'Ascension pour nous aider à organiser ce bel événement.
Ah,
Mais
les personnes que tu as citées, c'est ce qu'on peut appeler les gens du bureau, c'est ça?
exactement, c'est ça, c'est ça.
Et ils sont encore là aujourd'hui?
Oui, pour la plupart, oui. Donc
Ah,
s'ils
et
sont
donc ils t'accompagnent depuis 9 ans.
Oui, c'est ça. Voilà, c'est la 10e année cette année.
Oui.
Ça sera la 9e édition, parce qu'en fait, il y a une édition qui est passée à la trappe avec le Covid. Mais oui, c'est la 10e année. C'est la 10e année qu'on va travailler ensemble. Et voilà, et ceux qui ont plus ou moins, celles qui ont plus ou moins quitté on va dire, le bureau, parce que par des emplois du temps personnel un peu plus chargés, elles sont quand même là, dans le giron, pour pouvoir prêter main forte, pendant l'événement.
Ah, la passion est toujours là pour venir le jour J donner un coup de main, quoi.
Exactement, exactement.
D'accord. Alors
Et
Vincent,
l'origine,
présente-toi.
sinon, alors c'était ta question, il me semble que c'était l'origine du projet, c'est ça?
Ouais, tu vois, pourquoi d'un coup, parce que pour une première édition, se lancer sur un 70 km, il y a déjà une certaine volonté quand même, hein.
Ah, ça, c'est ce qui nous caractérise. Moi, je pensais que j'étais un peu fou, mais bon, comme je suis tombé sur Céline et Léo, qui sont plus folles que moi, donc forcément, tout de suite, c'est plus facile, quoi, de mettre en place ce genre d'événement et de commencer la première édition avec un 70 ou un peu plus que 70 km. On s'est pas posé la question, en fait. On s'est dit qu'on voulait une grande boucle qui nous permette de partir de Fort-Calquier, d'aller au sommet de la montagne de Lure et de revenir. On ne savait pas combien de kilomètres ça allait faire. Ben voilà. Après, on a découvert que ça faisait 70 et un peu plus, quoi. Donc voilà, on s'est lancé et on l'a fait. Mais l'origine, c'est quand moi, je viens du sport à la base. J'avais commencé dans le football, c'était ma première fiche de paye. Et puis après, j'ai fait des études d'ingénieur agronome, j'ai eu une carrière professionnelle. Et il y a un moment, j'ai repris mes études, et dans le cadre de mes études, en 2012, J'ai fait un MBA à Aix-en-Provence et puis je m'étais mis au trail en début 2011 en fait. J'ai un peu couru sur la route. Je faisais la route avec un copain parce que je pouvais plus jouer au football. Et puis en 2011, je me suis mis au trail pour aller faire la Diagonale des Fous.
Ah ouais, direct.
Voilà, comme bon nombre de personnes. Enfin, maintenant, je conseillerais de ne pas du tout faire comme ça, mais à l'époque, voilà, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, j'ai tapé dans la main avec un copain, avec Jean-Charles, sur un télésiège à Monnetier-les-Bains. On s'est dit, bah, on va aller faire la Diagonale des Fous en octobre 2011. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Jean-Charles, le lendemain, il m'a dit, bah non, ça tombe pas bien parce que c'est pas pendant les vacances. Alors, je dis, bah écoute, moi j'ai tapé dans la main, j'y vais, je m'entraîne et puis. Donc voilà. Donc c'est parti
Ah,
comme ça.
la violence.
Je me suis entraîné pour la Diagonale des Fous en 2011. Pour s'entraîner, bah, comme n'importe quel trailer maintenant qui va nous écouter ou qui nous écoute, on commence par une sortie de 10 km, 20 km, et puis rapidement, 30 km, ça devient une sortie normale, et puis 40 km. Et donc, ces sorties longues, en partant de chez moi, elles m'ont amené à découvrir la beauté du paysage que j'avais autour. Elles m'ont amené sur la montagne de Lure. Et effectivement, un jour, je suis arrivé au sommet et je me suis dit, bah, il faut bien que je rentre. Alors, comme j'étais arrivé du côté ouest, bah, je suis reparti du côté est. Et c'est comme ça que l'idée est née d'un jour pouvoir mettre en place un événement qui pourrait attirer du monde et qui nous permettrait de partager le pays de Forcalquier, montagne de Lure, avec le plus grand nombre.
Et oui, parce que c'est vrai que cette montagne de Lure, elle n'est pas très connue. Pourtant, elle culmine à 1800 et quelques mètres d'altitude. Comme si
1826,
on... Ouais.
c'est un tout petit peu plus bas que son grand frère,
Et oui,
le
le Ventoux qui est pas très loin, qui lui, bah, est très très connu. Mais pourtant, sur cette montagne de Lure, bah, tu as aussi une petite station de ski. Tu as aussi une portion un peu en falaise, une paroi, on va dire, du côté nord.
exactement.
C'est assez similaire. Bon, y a tout ce qu'il faut pour réussir.
C'est même mieux, en fait. C'est ça que tu voulais dire.
Ça, c'est parce que tu es chauvin. Là, tu as un parti pris.
Non, mais clairement, y a un énorme. Enfin, elle est très très belle, cette montagne. Moi, j'adore le Mont Ventoux. Enfin, j'ai eu l'occasion pas mal de fois de prendre l'Asset dans un sens ou dans l'autre, ou de prendre le train. Et c'est vrai que ce caillou en plein milieu de la plaine, enfin, de la Provence, c'est formidable. C'est très beau. Enfin, il n'y a pas de mais. La montagne de Lure, elle a cette différence d'avoir une ligne de crête très très longue en fait. Et en fait, on a un peu comme la Sainte-Victoire, on a la face nord qui est très abrupte. Et donc, on a 1000 mètres de gaz sous les pieds. Et on a une face sud qui est très très douce, qui descend lentement jusqu'à comment dire la Durance, et donc on a une vue dégagée sur le plateau de Valensole et quand la sur toute la vallée de la Durance, et quand comment dire, la visibilité le permet, on arrive à voir jusqu'à la Sainte-Victoire aussi. Et donc on a une vision à 360 degrés des panoramas à couper le souffle sur une très très grande distance, puisque la ligne de crête, enfin la montagne de Lure, fait 63 km de long. Donc on a vraiment de quoi s'amuser et en prendre plein les yeux quand on est là-haut sur la ligne de crête. Et donc voilà, donc c'est une vraie envie que de partager cet endroit-là avec le plus grand nombre. Et ça s'est construit au fur et à mesure. Donc pour finir l'histoire de l'origine du Trail de Haute-Provence, c'est que je suis parti faire du donc m'entraîner pour la Diagonale. J'ai fait la Diagonale et puis entre-temps j'ai rejoint aussi, j'ai travaillé pour Salomon. Donc là j'étais au cœur du réacteur du trail. Et quand je suis revenu de mon expérience de chez Salomon, j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec la montagne de Lure et le pays de Forcalquier aussi, parce que Forcalquier, c'est quelque chose aussi de quand même de très singulier dans sa capacité à accueillir les gens et le vivre ensemble que ça dégage. Il y avait vraiment quelque chose à faire. J'avais proposé le projet à quelqu'un qui s'installait dans la région, qui était prof de sport, qui avait un brevet d'État. Finalement, ça ne l'a pas intéressé. Donc, en 2013, après avoir comment dire, été impliqué dans l'organisation de la course, on va dire, locale, il y avait la course pédestre qui s'appelait la boucle des quatre rennes, qui avait été en fait reboostée quand j'avais changé le format, que j'avais fait passer de course sur route à course nature. Et puis, la version 2013 avait suscité pas mal d'envie. Et à la fin de cette édition-là, la boucle des quatre rennes, comme justement Céline et Léonie, qui avaient le magasin Endurance Shop à Manos, qui étaient partenaires, on s'est dit un jour, ça serait quand même pas mal de proposer quelque chose de plus grand. Et du coup, l'idée nous a plu à tous les trois et c'est parti comme ça, quoi. On a dit qu'on allait faire un trail. Et du coup, on est parti avec quatre parcours.
Ah oui, ah oui. Donc,
Donc.
après cette création, enfin, l'idée est là, tu te lances dedans, tu fais les plans, tout.
Ouais.
Quelles ont été les premières difficultés de la première année? Parce que j'imagine que c'était pas simple. Déjà, vous avez mis la barre haut. Et je pense qu'après, tu découvres tout un tas de choses auxquelles tu n'avais pas forcément pensé au début.
Ouais, c'est mieux. D'ailleurs, c'est mieux parce que sinon tu le fais pas en
Ouais, si tu connais les embûches, tu n'y vas pas.
fait. Si tu connais les embûches, tu n'y vas pas, ça c'est presque sûr. Et puis, comme on était plein d'énergie et tout, bon, finalement, c'était bien qu'on ne les connaisse pas parce qu'on les a découverts au fur et à mesure, puis on a trouvé des solutions.
Alors, lesquelles
Et
sont-elles, Vincent?
comment?
Lesquelles sont-elles?
La première difficulté, c'est d'établir les parcours. Enfin, tu
Ah
vois,
bon?
oui, parce qu'entre entre le tra les tracés sur, tu vois, tu fais des portions, tu fais des petites portions, tu fais rarement tout le parcours, tu vois, d'un seul coup, d'un seul. Après, il faut que tu le, comment dire, justement, ce à quoi tu faisais référence, c'est-à-dire que quand tu as une boucle de 80 km, tu peux pas t'en charger seul. À baliser, à débaliser, tout ça, c'est compliqué. Donc, tu es obligé de partager. Pour partager, il faut que tu t'amènes du monde sur le terrain. Pour amener du monde sur le terrain, il faut avoir des outils pour pouvoir repérer les parcours. Il faut aussi les entretenir parce que on a créé des voies, quoi, grosso modo. On était au sécateur enfin, tout ça avec l'autorisation de l'ONF et tout ça. Hein, mais il y avait quand même, c'était pas des endroits on va dire, où les randonneurs passaient sur certaines portions. Et du coup, il y avait quand même pas mal de boulot de défrichage. Après, il faut bien, bien, bien renseigner tout ça pour qu'on puisse positionner les signaleurs au bon endroit, qu'on puisse donner les bonnes informations.
Ah oui, d'accord, ah ouais.
Ça.
À
Parce que...
dimensionner un peu aussi les accès secouristes.
Exactement. Après, il y a toute la partie secouriste dont Céline fait un boulot formidable. Enfin, dès le départ, on a eu de la chance, pas de la chance, mais Céline est pompier, Léonie est pompier. Donc, cette notion de sécurité et de protection de l'intégrité des coureurs a toujours été au cœur du projet et a toujours été mise en avant. Et on avait le savoir, on avait un savoir-faire pour lancer l'événement, pour s'assurer de la sécurité des participants. Donc, il y a tout le tracé, il y a les autorisations à demander. Enfin, tu vois, ça, c'est compliqué parce que connaître en fait, les propriétaires et avoir leur autorisation, c'est un sacré boulot parce qu'il faut passer par le cadastre, il faut passer, du coup, aller en mairie. Enfin, tout ça, c'est beaucoup de boulot.
Ah oui,
Et
il
on...
a fallu que tu
Ah ben...
connaisses dans un premier temps à qui ça appartenait.
Oui.
Et une fois que tu as eu cette information qui n'est pas facile à avoir,
Non.
il a fallu que tu ailles leur demander, voilà, est-ce que je peux passer ici?
Exactement. Et puis en fait, tu as
Ah ouais, ça c'est
souvent,
long.
comme c'est un territoire rural, t'as pas, entre les propriétaires et les exploitants, c'est pas toujours les mêmes. Donc, tu écris aux propriétaires, mais parce que c'est ceux qui sont renseignés sur le cadastre. Mais en fait, ce n'est pas eux qui sont impactés directement, c'est leur locataire. Donc ensuite, il faut faire le même travail avec les locataires. Et j'avoue humblement que on a identifié une bonne partie des propriétaires, mais pas, on ne les a pas tous, quoi. Donc après, il y a pas mal de portions qui sont sur du PR ou du GR. Donc ça, c'est plus simple. ou sinon, on va dire des chemins qui sont empruntés régulièrement par les randonneurs. Mais on a fait ce travail-là qui n'est pas facile et on a écrit à tous les propriétaires pour demander l'autorisation de passer. Ouais.
Tu l'avais sous-estimé, ce travail?
Je savais pas du tout ce que ça représentait.
Ah, ok. Donc, tu
Je
l'avais
l'avais pas estimé.
sous-estimé.
Donc je l'avais pas sous-estimé, mais je l'avais pas estimé en fait.
Ouais,
Donc
ok.
non, en fait, ce qui est dur, ça c'est fastidieux. C'est compliqué d'avoir l'information. Et puis, ce qui est embêtant, enfin, ce qui est vraiment difficile, c'est que quand tu as l'impression d'avoir bien fait le travail, tu t'aperçois qu'il y a des endroits, enfin, tu n'as pas pu écrire aux propriétaires, tu n'as pas pu les prévenir. Et bon, tu as toujours un retour de manivelle quand c'est comme ça. Et ça nous embête parce que on a toujours fonctionné en étant respectueux et respectueux de tout le monde, en fait. On a bien évidemment, on met tout en œuvre pour que l'événement se passe bien, mais on a aussi conscience qu'on passe sur des terrains privés et on remercie les propriétaires qui nous laissent passer sur leur terrain pour pouvoir créer cet événement et partager le territoire avec le plus grand nombre.
D'accord.
Donc il y a ça, il y a la convaincre comment dire, les institutionnels de nous suivre.
Ah, le département, la région.
Oui, alors ça a commencé en fait avec la ville de Forcalquier. On voulait d'abord le soutien de Forcalquier puisque c'est là qu'on mettait le camp de base. Et puis
Ouais.
la communauté de communes du pays de Forcalquier, Montagne de Lure, parce que au départ on était exclusivement que sur enfin on était que sur la communauté de communes. Donc, et ça, c'est dur, mais le projet est arrivé au bon moment, au bon endroit, et donc ça a été plus facile de les convaincre. Et on a un soutien de la commune de Forcalquier, la communauté de communes du pays de Forcalquier, Montagne de Lure, depuis l'origine du projet. Et puis ensuite est venu du coup le département et la région qui nous soutiennent et qui ont vu leur soutien récompensé parce que depuis 2014, le travail qu'on a effectué a permis de mettre en valeur le territoire avec beaucoup de participants et puis des participants qui viennent d'un peu partout en France et de l'étranger. Donc ce soutien a été récompensé et de par ce succès, on continue à être soutenu et il y a un vrai travail. D'équipe, on va dire, avec toutes les institutionnelles et puis les partenaires privés qui ont suivi du fait d'être cautionnés par la force publique.
D'accord. Est-ce que tu as eu d'autres embûches un peu à cette création? Peut-être
Oui, après, il y a tout ce qui est ce qu'on avait entendu parler, mais on l'avait jamais vécu et on avait surtout jamais vécu le stress que ça générait, c'est le débalisage en fait.
Ah, le
Autant
débalisage.
oui, le débalisage pendant la course, si tu veux
Ah, pendant la course, ouais, qui n'était pas de, ouais, c'était pas de ton propre chef.
non 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 si tu
Ouais.
veux enfin, je crois que le THP est réputé pour un balisage plutôt sérieux. Bon, d'abord moi je suis obligé parce que comme j'ai pas le sens de l'orientation, je dois être un des seuls organisateurs à pas avoir le sens de l'orientation. Donc d'abord je balise pour moi pour pas me perdre. Et ensuite non, on aime tous baliser de manière assez dense parce que pour nous quand on va baliser à chaque fois qu'on met une balise en fait on discute on discute avec les coureurs en fait. Donc c'est un moyen de communication, de les rassurer, de dire il y a de la présence, vous êtes sur le bon chemin, vous pouvez continuer sans vous poser de questions. Donc tout ce travail de repérage et de balisage avant la course, c'est un vrai plaisir. Mais quand tu retournes baliser parce que tu as été débalisé des sections entières ou que des fois tu t'es retrouvé à avoir du balisage indiquant la mauvaise route, là c'est dur parce que moralement, ça n'a plus rien à voir avec ce que tu avais imaginé dans le projet. C'est beaucoup de temps perdu et puis c'est beaucoup d'incertitudes créées sur le bon déroulement de la course et puis sur l'intégrité physique des coureurs en fait. Parce qu'il y a des risques quand tu es débalisé, que tu te perdes et que du coup tu sortes du système de sécurité. Et ça, c'est voilà, ça c'est un peu dur, quoi.
Ah oui, sur le Ventoux, il y a beaucoup de gens qui sont contre les VTT et qui mettaient même des pièges. C'est pas allé jusque-là sur le
Non, non,
terrain.
non, 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 non. Et puis au fur et à mesure des années, des éditions, en fait, on en a de moins en moins.
Ah d'accord.
Donc, on
C'est
est.
plutôt positif, ça veut dire que
Ah oui.
ton événement est de mieux en mieux accepté dans le paysage, aussi rural soit-il, quoi.
Exactement. Et on a le soutien, voilà. Oui, il est de mieux en mieux accepté. C'est vrai qu'on. Bah, je l'ai dit en introduction tout à l'heure, c'est qu'on. On fait des erreurs, hein, il n'y a pas de doute, chaque édition, on fait des erreurs, mais jamais sciemment. Donc, on est très respectueux de toutes les parties, on va dire, concernées par l'événement. Et donc, on débalise, on rend les parcelles propres, on fait ça correctement. Mais comme on est une petite équipe, des fois, ça prend un peu de temps. Mais voilà, donc, le boulot qu'on fait est plutôt bien. Donc, l'événement est de plus en plus et de mieux en mieux accepté sur le territoire.
Ok.
Et
D'autres
après,
difficultés, Vincent,
il y a
qui
toute
t'en
la
souviens?
logistique au départ. Tu sais que tu as toute la logistique, la livraison,
Ah, le dimensionnement des ravitaillements?
dimensionnement des ravitaillements, la livraison, d'avoir un point de livraison central, d'avoir. Et puis, c'est surtout le retour. Enfin, toi, je veux dire, pour l'événement, tu as une telle énergie, enfin, tu trouves toujours des solutions. Mais quand l'événement
Ouais.
termine, que les coureurs sont partis et qu'il faut que tu ranges,
Ah ouais.
ben là, des fois, tu as des surprises.
Ouais, en fait, t'as plus envie à ce moment-là.
Et puis c'est surtout que bah, tu as des retours, tes partenaires ne te les reprennent pas forcément. Donc après, il te faut un local pour pouvoir stocker. Ça génère des coûts auxquels tu n'avais pas forcément budgétisé.
Ah ouais, ça va vite.
Bon. Bon, après, les professionnels de l'événementiel, savent le faire, tout ça, mais nous, on n'avait jamais.
Oui, vous n'étiez pas professionnel. Alors.
On n'avait jamais organisé d'événement, en fait. Aucun de nous trois n'avions organisé un événement. Donc, il y a des choses qu'on a découvertes en faisant, en fait. Mais on a toujours trouvé des solutions. Donc, finalement, mais je peux t'assurer que la première édition, quand on s'est retrouvé avec tous les packs d'eau et de coca, et qu'on n'était plus que quatre. Et puis d'un seul coup, d'un seul, il y a quelqu'un qui est arrivé qui a dit: mais non, mais moi j'ai un hangar juste là, là, ça vous irait? On a dit oui.
Ah ouais.
Et voilà.
Ah putain, le sauveur, le messie.
Le Messie est arrivé. Ouais, non, mais ça c'est presque passé complètement comme ça, quoi, mais pas loin.
Ok.
Donc voilà. Voilà, ça c'est les difficultés. Et puis bon, voilà, heureusement qu'on. Ben non, il y a certaines difficultés. Si on avait pu les anticiper, on les aurait évitées. Ce problème de logistique, tout ça, ça aurait pu être évité. C'est avec de l'expérience. Mais c'est
Ok.
bien.
Alors justement, cette première édition, elle a peut-être laissé des séquelles, puisque tu vas conserver à peu près le même format de course jusqu'en 2018, 2019.
Ouais, en fait, on a pratiquement créé une nouvelle course à chaque édition. Parce qu'en 2015, on a rajouté le 27 km, en fait.
Ah oui, exact.
Et
Et
à
le
ce
18 a
moment-là,
été un poil raccourci, non?
voilà, c'est ça, le 18 est passé à 16. Et on a créé en 2015 le 27, qui nous a permis d'offrir un parcours qui était plutôt intéressant, enfin, qui est intéressant, de par les paysages, qui fait traverser et découvrir sur une petite distance, et des terrains variés, ça va vite, et en même temps, ça monte et ça descend plutôt de manière régulière, mais tu es toujours dans la relance. Et ça a permis aussi de mettre en avant d'autres communes de la communauté de communes, donc c'était intéressant. Mais par exemple, dans les choses pour construire ce 27 km, il n'y avait pas moyen de trouver la jonction d'une vallée à l'autre, en fait. Pas moyen, pas moyen, et ça, c'est jusqu'à 15 jours avant, quoi. Donc,
Ah bon? Qu'est-ce qui bloquait?
ouais, c'était, il n'y avait pas moyen de trouver le chemin, quoi. J'avais trouvé une portion, un endroit. Après, il y avait la portion qui nous permettait de passer des Ibourg à Liman. Elle n'était pas belle. Enfin, quand je dis qu'on n'avait pas, on avait un tracé, on le faisait, hein, mais ce n'était pas beau. Ça ne nous correspondait pas. Il y avait trop de portions de route. Et puis, il y a un PR qui s'est. Enfin, voilà, on a trouvé avec un local. Il nous a dit, mais non, mais vous pourriez peut-être passer par là, et tout ça, et tout ça. Et là, on a trouvé une descente qui était la descente qu'on utilise maintenant. Mais voilà, c'est des choses qui prennent un peu de
Ah,
temps, parfois.
15 jours avant, le stress monte en plus.
Comment? Non, quand je dis un jour, c'est un peu avant l'événement, mais enfin, un peu avant ça. Mais des fois, ça. Ouais, ça nous a. Cette jonction, elle a été compliquée, quoi, pour garder un ratio. On va dire de 1000 mètres pour 20 km, tu vois, c'était pas simple, en fait.
D'accord. Qu'est-ce que tu as ajouté après en 2016, 2017? Il y avait un city trail aussi à un moment donné, un relais?
Ouais, c'est ça. On a mis en place un Cita Trail qui permettait de.
D'aller dans la citadelle, non?
C'est ça, c'était une boucle de 800 mètres. Et qui pouvait être fait en équipe de 10. Enfin, il fallait faire 10 boucles et le plus vite possible en relais. Et l'idée, c'était d'animer justement le centre-ville et de proposer, en fait, à ceux qui ne voulaient pas faire des grandes distances, de pouvoir quand même participer à la fête, enfin, à l'événement de manière assez ludique, puisque on pouvait faire des boucles de 400 mètres, enfin 800 mètres au total. Il y avait 400 mètres qui montaient à la citadelle, et après on descendait pendant sur 400 mètres pour revenir à la cathédrale. Ouais. Et comme ça nous faisait passer dans le Fort Calquier ancien. Donc ça, c'était
D'accord.
en 2016. Et en 2017, on a dû proposer une lune pour deux, je crois, en plus.
Ah oui, exact, je m'en souviens de ça. Ça avait encore lieu en 2000.
On le lançait juste, je pense que c'était en 2016, parce qu'on avait gardé le Cita Trail en format relais.
Ouais, t'avais un duo, c'était un duo, une lune pour
C'est
deux,
ça,
fallait partir ensemble et arriver ensemble, tout à
c'est
fait.
ça. Sur le 16 km, mais de nuit. Et après, en 2017, ou en 2018, on a dû transformer le Cita Trail qui était en relais, on l'a fait en Cita Trail, on l'a fait en trail urbain. Donc, on
Oui,
a posé
exact.
10 km en ville pour justement proposer une nouvelle distance et puis proposer de découvrir, en fait, la ville, puisque les autres parcours permettent de découvrir les alentours de Fort Calquier. Et là, le Cita Trail permettait de découvrir la ville sous tous ses aspects, pardon. Donc voilà, on a essayé de rajouter quelque chose de nouveau chaque année. Et puis le gros changement qu'on a fait, c'était en 2017, où on a changé la date, justement. On s'est calé sur l'ascension en 2017.
Ah d'accord, c'était quand avant?
En fait, c'était, on va dire, c'était le week-end de la Pentecôte. Ça a été le week-end de l'ascension, je crois, par hasard. Au départ, le week-end de la Pentecôte. Et puis justement, en 2016, c'était un tout petit week-end. Et à la suite de cette édition-là, où il y avait eu du monde, mais on avait trouvé que par rapport aux années précédentes, le développement de l'événement avait été un petit peu freiné. Ça correspondait aussi au fait que moi, j'étais pas trop sur Fort Calquier, parce que je travaillais à Pithiviers, dans le 45, dans le Loiret. Donc, j'étais pas trop souvent là. C'est plus dur du coup pour mobiliser les énergies locales, mais je pense que c'était surtout dû au fait d'être un petit week-end au mois de mai, et c'était pas simple de faire venir du monde d'un peu partout en France, quoi.
D'accord.
Donc en 2017, on s'est calé sur le week-end de l'Ascension, et là on est passé à 1600 coureurs, quoi, 1650.
Ah oui. Et tu en avais combien sur les premières éditions à peu près?
Ça fait 500, 800, 900 et 1650 en 2017.
D'accord. Ouais, ça va faire un petit boom. Et aujourd'hui, tu arrives à combien à peu près?
Bah là, on était sur une tendance. Là, la tendance, elle est, on revient sur des tendances un peu avant Covid. Si tu veux, l'édition avant, en 2019, on était à 2500, toutes courses confondues.
Ouais, qui était un peu l'apothéose avant les années Covid, quoi.
Ouais, c'est ça. Bah, c'était sur une croissance à 38% par an et en moyenne. Et quand ça s'est arrêté, là, au mois de mars, on était sur une tendance à 3500 pour 2020. Et cette année, on sera pas loin des 3000. Ouais.
Ouais, ça m'étonnerait pas parce que pas mal de... Sur les toutes dernières courses que j'ai animées en décembre, on revoyait des courses qui étaient pleines, donc ça va sans doute se passer comme ça, effectivement. Alors, excuse-moi,
C'est plus
attends.
dur de. Ouais, pardon, juste pour finir, c'est beaucoup plus dur de prévoir. Moi, j'ai pas la certitude encore en 2023 parce que le modèle, on va dire, mathématique qu'on avait au bout de. Qui était très robuste au bout de 6 éditions parce que les 6 éditions avaient évolué de la même façon. Donc, c'est pour ça que je peux presque affirmer qu'en 2020, on aurait été 3005 parce que les courbes étaient exactement de la même. Les mêmes que sur les 6 éditions précédentes. Mais là, on a eu un bon. Enfin, voilà, ça redémarre bien et le nombre d'inscrits au 31-12 est encourageant pour pouvoir imaginer d'être entre 2500 et 3000 coureurs au mois de mai. Donc,
D'accord.
on est content.
En plus, tu as le meilleur speaker du monde, donc.
J'ai les deux meilleurs speakers du monde.
Ouais, c'est vrai. Vincent, en 2019, tu chamboules tout ou presque. Tu décales le lieu de l'événement. Alors, pas beaucoup, de, je sais pas, 300 mètres, quoi, la place à côté. Mais tout de suite, il y a une dimension bien plus conviviale, avec un vrai village. Avec la mairie qui, moi, j'ai eu l'impression, s'investissait un peu plus. Il t'avait mis une vraie belle sonorisation sur l'intégralité de la place. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019? Alors, pourquoi tous ces chamboulements-là qui étaient très bénéfiques, hein, j'ai eu l'impression.
Oui, tu as raison. Pourquoi ces chamboulements? Bah parce qu'on se développait et qu'on voyait la nécessité de tout rassembler à un seul et même endroit, d'avoir de l'espace. Et effectivement, ça a fonctionné. Ça a fait un vrai village où on a pu rassembler tous les acteurs, en fait, les partenaires, les prestataires, les accompagnants, les coureurs. Et on a tout eu au même endroit. On avait le repas, on avait comment dire, le camion pizza au feu de bois. Enfin, tout ça s'était rassemblé en un seul et même lieu. Les inscriptions étaient au même endroit. Enfin, ça a permis de. Comment dire, de rassembler tous les acteurs de l'événement en un seul et même lieu et tout en étant comment dire, dans un espace assez grand pour pouvoir avoir quelque chose d'aéré, donc de très accueillant et de très fluide en fait. Et puis ça a donné aussi comment dire, la notion, on va dire, au territoire qui nous accueillait de l'importance de l'événement. Donc. Parce que par
Et oui, je
rapport.
me souviens, Christophe Castaner était venu.
Oui, ça, il est venu à tous les événements. Il a
Ah bon?
beaucoup. Oui,
L'année d'avant, je n'avais pas le souvenir.
si, il était là. Il était là. Alors, parfois, il a un peu plus de temps que d'autres.
Oui, 2019, il était resté assez longtemps.
Ah oui, puis enfin, voilà, en 2021 aussi, en 2022 aussi. Mais il a toujours passé beaucoup de temps puisqu'il était maire et président de la Comcom, donc c'est à lui qu'on a présenté le projet au départ. Ce que j'allais dire justement, parce que tu parlais de la mise à disposition des moyens de la ville de Fort-Calquier, et que ce soit l'équipe de Christophe Castaner ou l'équipe de David Géhant maintenant, enfin, la ville est derrière nous, la Comcom est derrière nous, il nous soutient. Et tu faisais aussi référence à la montagne de Lure qui est moins connue que le Ventoux, et ça, clairement, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais le travail réalisé avec le Trail de Haute-Provence, a fait prendre conscience du potentiel aussi de cette montagne de Lure. Et depuis, il y a comment dire, il y a une vraie volonté de et des pouvoirs publics de mettre en valeur cette montagne de Lure parce qu'elle a un énorme potentiel et c'est pour ça qu'on a aussi le Tour de la Provence organisé par Pierre-Maurice Courtade là, qui passe, qui a signé 3 ans avec la communauté de communes du Pays de Forcalquier Montagne de Lure. Donc on aura la deuxième édition cette année qui va passer en février. Ces événements sportifs permettent de mettre en valeur cette montagne de Lure et tout le territoire. Et c'est une vraie volonté des pouvoirs publics d'utiliser des événements comme le THP ou le Tour de la Provence pour faire valoir ce potentiel énorme qu'est la montagne de Lure.
Et oui, c'est quand même appréciable avec cette belle montée jusqu'à la station. Je pense qu'il y a de quoi se régaler, hein, que ce soit en cyclisme ou à pied.
Ouais.
Ok, alors après, c'était dans les bacs pour 2020. Bon, forcément, il y a eu le Covid, donc en mai, rien du tout. Tu as essayé de le décaler. Il y a eu une deuxième vague de confinement. Mais vu que tu es quelqu'un de très solide, costaud, on va dire, le projet a vu le jour pour 2021, qui a dû être aussi décalé, mais qui a eu lieu. Le 100 miles, ça y est, la distance reine arrive au THP.
Ouais.
D'où te venait cette envie, Vincent? Parce que c'était déjà, je pense, suffisamment compliqué, vu que chaque année, tu durcissais un peu le jeu, tu te rajoutais des trucs chaque année. Et là, carrément le 100 miles en plus.
Ouais, bah ça a pris un peu de temps, ouais. Ça a pris un peu de temps avant d'oser se lancer là-dedans. C'est vrai que le fait d'avoir fait la CCC, d'avoir enfin couru on va
Ah
dire
oui,
quelques.
toi, tu as couru la CCC.
Ouais, moi j'avais couru plusieurs fois la CCC, j'avais participé à la Diag.
Ah, t'avais pas couru à la Diag, t'avais participé.
J'avais couru ouais, aussi.
Ah, t'avais couru aussi.
Non. Donc il y avait cette envie. Il y avait cette envie de repousser les limites encore plus loin. Donc, il y avait cette envie-là. Et puis, enfin, clairement, le Trail de Haute-Provence, en fait, il s'est construit sur 3 piliers forts.
Ouais.
Le premier, c'est le partage des valeurs du sport avec le plus grand nombre. Parce que, comme je te l'ai dit en introduction, moi, je viens du foot. Les valeurs du sport, de compétition, de haut niveau, je les ai en moi, quoi, depuis tout petit, parce que j'ai commencé à 4 ans, et voilà, et que j'adore ça, et que enfin, je trouve que ça permet de se construire, se développer, enfin,
Ah,
s'épanouir.
tout
Donc, j'ai vraiment envie de. Enfin, j'ai envie de le partager avec le plus grand nombre, et c'est pour ça que depuis le départ, il y a des courses enfants dans le THP, parce que. Bah, parce que c'est normal qu'ils fassent partie de la fête et qu'ils profitent de l'énergie dégagée par un tel événement. C'est aussi, il y a beaucoup de distances qui sont proposées depuis le départ pour que chacun trouve, on va dire, distance à son pied, quoi, qui puisse participer encore une fois au Trail de Haute-Provence. Donc, ça c'est un des piliers sur lesquels on s'est fondé, enfin, sur lesquels on s'est construit. Le deuxième pilier, c'est la création de valeur sur le territoire qui nous accueille. Et donc, comment on fait pour créer de la valeur sur le territoire? On essaye de proposer un grand nombre de courses pour toucher un public large. On essaye de proposer des distances assez longues parce qu'on sait que ben, quand les distances sont longues, les gens peuvent venir de plus loin et ils restent plus longtemps sur le territoire.
Et oui, d'où le week-end de l'Ascension aussi, en plus.
Exactement, d'où le week-end de l'Ascension et d'où le fait que on a toujours proposé les longues distances le samedi, mais pas le dimanche, pour que les gens
Oui,
aient
c'est vrai ça.
ouais. Bah, oui. Oui,
Comme ça,
c'est
tu peux
normalement, c'est à peu
rentrer
près
chez
clair ce que je
toi.
te raconte. En tous les cas, j'essaye. Et du coup, donc ça c'est le deuxième, enfin, tu vois, c'est le deuxième pilier, et c'est vrai aussi c'est la raison pour laquelle on s'est positionné sur le week-end de l'Ascension, parce que bah, moi, de par j'allais dire mes origines, pas mes origines, mais de par ma carrière professionnelle ou qui m'a amené à travailler à l'international, pour moi, c'est une évidence qu'on doit faire venir du monde, de l'étranger, enfin, d'Italie, Espagne, enfin, d'un peu partout. Sur le pays de Forcalquier, Montagne de Lure, parce que ça fait partie de ma culture et que j'ai envie de le partager, pas qu'avec les Français, mais avec tout le monde. Et le troisième pilier sur lequel est basé le développement du Trail de Haute-Provence, c'est le mélange des univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès les premières éditions, en fait, j'ai fait intervenir des gens du spectacle, enfin de la culture sur le Trail de Haute-Provence. On avait Luigi et les conteurs et ces conteurs qui venaient raconter des histoires aux parents et aux enfants. On a eu comment dire, un concert de musique classique en 2019 qui était proposé dans la cour des artisans pour
Ah oui, je m'en rappelle.
voilà. Donc l'idée, c'est de mélanger plusieurs univers, culture, enfin tout, musique, avec le sport, parce que il n'y a pas de raison qu'on les dissocie. Et j'avoue que ce troisième pilier, pour le moment, il n'est pas encore assez développé.
Ah, c'est pas
Mais
évident.
ça fait partie des choses sur lesquelles on va appuyer en 2023. Donc je reviens sur le deuxième pilier, la création de valeur, et les distances longues. Et c'est vrai que y avait, comment dire, le fait de courir des grandes distances moi-même. Il y avait cette ligne de crête qui est juste une merveille. Enfin, nous, on adore cette ligne de crête sur la montagne de Lure. Donc, on s'est dit, comment on fait pour parcourir une grande distance sur cette ligne de crête? Il faut qu'on propose une distance plus longue. Et donc, le troisième point, et si on propose une distance plus, enfin, 160 km, les gens vont venir de plus loin et vont venir plus longtemps sur le territoire. Donc, tous ces critères-là ont fait qu'à un moment ou à un autre, on s'est dit, bon, on y va, quoi. On essaye. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y arriver, puisqu'on a déjà fait n'importe quoi la première édition. On a déjà proposé quatre distances, alors que, dont un 70 km. Et on s'est dit qu'il n'y avait pas de raison qu'on n'arrive pas à faire un 160 km. Et voilà, et c'est parti comme ça.
Ah, vous êtes quand même bien courageux. Et quels ont été les premiers retours alors des coureurs sur ce 100 miles qui a eu lieu en 2021,
Bon, en
mais surtout en
2021,
2022? Ah
ouais. Attention, t'as un chat dans la gorge.
ouais, j'ai avalé. Il y avait une mouche.
Ah
En
ben ça.
2022, il faisait beau temps. On va peut-être plutôt parler de 2022.
Oui, alors non, ouais, il y a 2021, ouais, ça a été très très dur, hein, ces reports sans cesse et tout ça, ça a été compliqué, ouais. Et effectivement, en 2021, pour la première fois, on proposait cette distance, la distance Rennes, les 100 miles, et on a pris la tempête et du coup, on a dû arrêter l'Ultra de Provence, donc c'est comme ça qu'il s'appelle, notre 100 miles.
Ah, au niveau de la station de Lure.
Non, non, avant, bien avant, bien
Ah,
avant.
bon.
Au kilomètre 58, on a dû l'arrêter justement à Rodertier. Et voilà. Et ça a été hyper dur, enfin, comme week-end, parce qu'en fait, il a fait beau jusqu'au vendredi soir. Il a fait beau à partir du lundi matin, quoi, ou du mardi matin. Mais le samedi, on a eu la tempête comme jamais on avait eu. Donc ça n'a pas été simple, et voilà, il a fallu arrêter, il a fallu raccourcir le 44 et le 80, et donc ça n'a pas été simple. Et du coup, une autre décision qui n'a pas été simple à prendre, parce que économiquement c'était un peu une folie, on a réinvité tous ceux qui avaient pris le départ au mois d'octobre du 160 km. On les a invités à revenir en mai 2022. Pour la simple et bonne raison,
Ah ouais.
alors qu'on avait toutes les dépenses, hein, parce que comment
Oui,
dire,
en fait,
le
avant que les
Médic.
coureurs arrivent, tout est dépensé, quoi, presque.
Exactement, tout est dépensé avant qu'ils arrivent. Donc on a eu, si tu veux, deux fois la dépense pour le 160 km, et une seule fois des dossards vendus, quoi. Mais pour nous, ça nous paraissait important, parce que les premiers inscrits ou les premiers partants du 160 en octobre, c'était ceux qui avaient fait confiance à l'organisation pour mettre en place ces 160 km. Et comme ils n'avaient pas pu aller au bout, on s'est dit que c'était normal de leur proposer de boucler cette boucle pour la première fois, et qu'on puisse le faire ensemble. Donc voilà, ça c'est pour l'histoire, la petite histoire d'octobre 2021. Et c'est vrai que 6 mois après, on a remis le couvert avec l'édition 2022. Et là, donc c'était en mai dernier, on a retrouvé, on va dire, les fondamentaux du THP, puisqu'on avait, on était au printemps et on avait du soleil et on était vraiment content de pouvoir retrouver les sourires sur la ligne d'arrivée de tous les participants qui avaient été subjugués par les paysages qu'ils avaient croisés et par le sérieux du tracé et la qualité des bénévoles tout au long du parcours. Et puis en plus, cette première édition a vu cette première édition du 160 km a vu une dame gagner devant les hommes avec Marie-Hélène Posta. Et voilà, c'était une première de chez les premières, en fait. Donc c'était bien, c'était beau, c'était pour une
Et du
première
coup,
édition.
sur les tablettes,
Ouais.
le vainqueur ancestral du Trail de Haute-Provence sur le plus grand format sera donc une dame.
Exactement.
Il faisait même, après c'est un peu typique du coin, il faisait même particulièrement chaud hein, cette année quand même.
Il a fait bon, ouais. Ouais, il a
Ouais.
fait bon.
Mais bon, ça a toujours un peu comme ça quoi, chez vous.
Ouais, c'est ça. C'est
Ok,
ça.
ouais, et bien sûr, le 100 miles est reconduit pour 2023.
Oui, exactement.
Alors, point de vue des bénévoles, Vincent, tu nous as parlé donc d'un des membres du bureau qui les gérait. Ça doit être une tâche quasiment à l'année. Combien t'en as et est-ce que c'est facile à trouver autour de Fort-Calquier dans une ville qui est plutôt éloignée de grandes métropoles?
Alors, bon, c'est pas simple. Effectivement, là, si tu veux, la population du territoire sur lequel on évolue, c'est 10 000. 10 000 personnes au total, dont 5 000 à Fort-Calquier.
Et ils
Donc,
veulent pas tous être bénévoles?
ça serait bien.
Ce serait
Bien.
énorme.
Mais malheureusement, non. Ils ont aussi d'autres choses à faire que le THP.
Oh.
Et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Il n'y a pas que le THP dans la vie. Mais le vivier est bien évidemment plus petit ou plus restreint que ce qu'on peut avoir quand on organise une Saint-Élion, par exemple, en termes de comment dire, comment ça s'appelle, de bassin de
Ouais,
chalandise.
bassin de
Ouais,
population, je crois qu'on dit
le
comme
bassin
ça.
de population qui est quand même différent. Mais on a entre 200 et 250 bénévoles chaque année, ouais, qui nous rejoignent avec un socle plutôt important et qui revient chaque année parce qu'ils ont trouvé pas mal de plaisir avec l'expérience du Trail de Haute-Provence parce que c'est un événement qui est généreux et qu'on a su. Comment dire? En fait. On a su partager notre passion avec eux et ça, ils le sentent et ils nous le rendent bien et du coup, ils nous donnent de l'énergie pour continuer parce que des fois, on se retrouve, quand je dis on, c'est le petit noyau dur du bureau quoi, qui organise. Des fois, tu te retrouves confronté à des difficultés, notamment pendant le Covid, mais pas que en fait, hein. Tu poses toujours la question de savoir est-ce que tu vas avoir assez d'argent pour pouvoir mener à bien l'organisation ou pas parce que les gens s'inscrivent au dernier moment. Et ça peut se comprendre, mais les partenaires, des fois, tu mets vachement de temps à les convaincre. Entre le moment où tu les convaincs, tu récupères l'argent pour pouvoir payer les dépenses. Ben, tout ça, tu t'arraches des fois un petit peu les cheveux. Et puis en même temps, en face de toi, tu as une équipe de bénévoles qui t'envoie une énergie hyper positive, qui trouve des solutions, qui t'accompagne. Et donc voilà, et nous on partage notre volonté de se développer. On partage depuis le début. Moi j'ai partagé les objectifs de l'événement. J'ai annoncé aux bénévoles. On fait des réunions régulièrement et on leur dit bah voilà cette année on aimerait atteindre tel nombre de participants. Et donc on les a impliqués comme ça dans le projet. Et on est monté chaque année un peu plus et en annonçant et puis en leur disant, bah, écoutez, là, il nous manque 200 participants pour arriver à l'objectif. Alors comment on fait? Et on les implique là-dedans. Et ils sont contents de voir l'événement grossir et l'événement prendre de l'ampleur sur le territoire. Donc, voilà comment on a fait pour, on va dire, fidéliser un grand nombre. Et puis après, on a l'événement grandissant, on a dû déléguer en fait des fonctions et on a créé des chefs de poste. Et on s'appuie maintenant sur une vingtaine, un peu plus de chefs de poste qui eux-mêmes recrutent du coup leurs équipes. Et ce qui démultiplie en fait la force et permet de rassembler voilà, les 200 ou 250 bénévoles dont on a besoin pour l'événement.
Ah oui, et puis ça permet peut-être à tes bénévoles de travailler avec ceux qu'ils connaissent ou ceux
Exactement.
qu'ils ont envie. C'est plus sympa, quoi.
Oui. Et cette année, par exemple, l'objectif est de passer à 400 bénévoles.
Ah ouais.
Parce qu'on veut embarquer plus de monde avec nous.
Oui, puis en fait, les bénévoles, plus ils sont nombreux, plus leur enfin moins leurs tâches sont difficiles, en fait.
Exactement. Et puis, ils partagent plus. Et puis, ça
Soit tu
fait.
peux te relayer, soit tu es en groupe, c'est plus sympa.
Exactement. Donc, on est en train de mettre en place des actions pour recruter. On s'est accompagné aussi. Enfin, on est en train de prendre des contacts pour se faire accompagner pour augmenter le nombre de bénévoles pour que, effectivement, ça soit plus facile. Et puis, pardon.
Vincent?
Et puis, c'est pas que le. En fait, c'est pas le fait que ça soit que plus facile. C'est aussi. En fait. Comment dire, ils rencontrent du monde aussi. Enfin, c'est un événement, c'est aussi la possibilité, enfin, quand on est bénévole, de faire quelque chose qui nous passionne, et puis on contribue au développement de son territoire. Et en même temps, on rencontre du monde, et on se fait des nouveaux amis, on se fait un nouveau cercle, on se fait des nouveaux. Donc, c'est ça aussi l'idée d'élargir le cercle et de faire grandir le nombre de bénévoles, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui se rencontrent grâce au THP.
Bientôt, bientôt l'appli de rencontre du THP. Vincent, est-ce que tu es organisateur professionnel?
Non, non, non.
Ah, je croyais que si.
En fait, il y a un moment si. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que j'ai arrêté de travailler pour me lancer à fond là-dedans. Oui, j'ai utilisé, comment dire, mon chômage pour me lancer complètement.
Ouais, comme un auto-entrepreneur à ses débuts, quoi.
Exactement. Et là, le fait est que, si tu veux, hier et avant-hier, je passais des entretiens quoi, parce que là, je cherche du boulot, quoi. Donc, tu vois.
D'accord. Parce que tu commences à maîtriser l'événement et tu sens que tu as moins besoin d'y passer du temps.
Il y a ça, et puis ça a été compliqué le Covid. Et puis, en fait, il y a plein de facteurs. Enfin, la Covid a coupé la dynamique de l'événementiel. C'est un peu une la palissade. Et du coup, se retrouver seul, enfin, c'est dur de se retrouver seul, d'organiser, enfin, et j'ai plus vraiment envie de ça. Enfin, quand je dis ça, parce que je porte beaucoup, c'est moi qui porte beaucoup le projet, même si on a une équipe réduite, j'y passe beaucoup de temps. Les filles ont des emplois du temps qui leur permettent de passer moins de temps sur l'événement. Et là, c'est vrai que il y a l'envie aussi de retrouver, on va dire, un boulot un peu plus normal où on a une interaction sociale qui est un peu plus importante. Et ça te permettra aussi de prendre du recul par rapport à l'événement et de donner un nouveau souffle à l'événement. Donc voilà. Et c'est vrai que l'équipe est montée en compétence, elle est nettement plus forte, elle a moins besoin de moi au quotidien. Et puis, comme on veut développer davantage l'événement, on commence aussi à prendre contact avec des prestataires pour nous accompagner à structurer encore mieux l'événement.
D'accord. Ouais. Et puis tout de même 10 années dédiées au THP, c'est quand même ça se salue quoi. En tout cas, 10 années d'investissement hein, comme ça, c'est pas rien.
Non, c'est pas rien.
Oui.
Non, non, ça marque. Ça marque.
En bien, en bien.
Oui, bah, y a des périodes bien et puis il y a des périodes difficiles, ouais, quand,
Ouais, oui. Bon, ça, en fait, c'est tout le temps pareil.
oui, non, mais c'est pour ça, il n'y a rien de spécifique au trail, c'est pour toutes les activités pareilles. Ouais.
Du coup, j'avais. Faudra peut-être que je la modifie un peu. Tu avais quitté ton travail pour te dévouer corps et âme à la course. Ça, c'était une volonté dès le départ ou c'est parce que tu as vu que tu pouvais pas faire les deux?
Non, mais depuis le départ, dans les objectifs du Trail de Provence, c'est de créer, si on peut créer un, deux ou plus d'emplois, on le fera, quoi. Ça fait, pour moi, c'est un gage, c'est aussi un des critères de la réussite de l'événement, enfin de la mesure de la réussite de l'événement. C'est-à-dire que si on arrive à créer des emplois à temps plein, ben, c'est que l'événement aura trouvé sa place dans le milieu économique dans lequel il évolue. Et voilà, ça fait partie du projet depuis le départ. Donc,
D'accord, oui, c'est
à un
vrai qu'on
moment
n'y
donné.
pense pas, mais en
Comment?
fait, souvent on dit, ouais, c'est une organisation de course professionnelle, patati patata, et on imagine le démon. Mais
Ouais.
à un moment donné, c'est quelqu'un qui donne du travail à des gens aussi.
Oui, voilà, c'est ça. Et puis, en fait, que ça soit associatif ou il y a toujours. Enfin, l'idée, c'est quand même, c'est mieux si les recettes dépassent les charges, quoi. Tu vois, ça permet de.
Oui,
Voilà.
même si c'est associatif, ça te donne de l'air au cas où, ouais, bien sûr.
Mais, oui, parce que sinon, il y a quelqu'un qui doit payer ou alors ça s'arrête.
Eh
Donc voilà. Et oui, l'objectif depuis le départ, c'est de pouvoir créer. Des emplois, et après ça prend le temps qu'il faut, comme n'importe quelle comment dire, structure, ça va plus ou moins vite.
Ouais, je me souviens que tu avais aussi t'avais un alternant, je crois, qui était en stage, Victor, là, c'était un très bon souvenir, hein. Il
Ah,
était très
c'était
impliqué.
ouais, c'était le premier stagiaire, il a mis la barre assez haut, donc ça n'a pas été simple pour les stagiaires qui ont suivi. Ouais,
Ah, il était impressionnant ce garçon. Ouais. Tu sais ce qu'il est devenu?
Ouais, bah on est toujours en contact. Et
D'accord.
d'ailleurs, on était en contact. Je l'ai retrouvé sur la Diagonale en 2022.
Ah, magnifique!
Ah, c'était énorme, énorme. Ah ouais, parce qu'il m'a envoyé un message à tout hasard. Enfin, vraiment le plus grand des hasards. Il était en haut du Maïdo. Il y avait un mec qui buvait un coup avec un t-shirt Trail de Haute-Provence. Donc, il a pris la photo. Il me l'a envoyé. Il m'a dit grosse pensée à toi, Vincent. Et je lui dis, t'es où? Je suis en haut du Maïdo, ok, tu y es encore dans 4 jours ou pas? Parce que moi, dans 4 jours, j'y serai. Et on s'est retrouvés comme ça à la Diagonale, enfin à la Réunion pendant la Diagonale. Donc il était là au départ. Et puis il était là à l'arrivée pour boire des bières. Donc c'était vraiment cool, vraiment bien.
Ah ouais, impressionnant. Et il faisait la course aussi.
Non, 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 il était là. En fait, il vivait. Il a passé 3 mois sur l'île avec sa compagne. Et ensuite, il devait partir fin octobre pour faire une saison enfin, une saison de ski à Merribel, je crois. Donc, non, il a pas mal bourlingué depuis. C'était pas facile de savoir où il était entre l'Australie, la Thaïlande, je ne sais où. Et c'est pour ça que c'était vraiment, comment dire, une séquence émotion de le retrouver.
Ah ouais, tu m'étonnes. Ok, ouais. 2020, donc ton événement se déroulant en mai, un petit peu comme le mien, la Nivolé Revard, bon bah il n'y a pas eu le choix, quoi, il a fallu annuler, c'était le confinement strict. Et en 2021, bah, malheureusement, les courses ont été autorisées à partir de la mi-juin. Donc là, bah, c'est comme moi, tu as encore dû annulé, mais tu t'en es sorti en décalant ton événement en fin d'année. D'une part, c'est compliqué, et en plus, la météo a joué des siennes. Alors, tu en as parlé tout à l'heure, mais quel bilan t'en as tiré de tout ça? Le bateau a pas mal tangué. Il a fallu être fort pour garder la barre. Est-ce que ça t'a renforcé ou est-ce qu'au contraire, ça t'a un peu fragilisé? Comment tu
Les
ferais le
deux.
bilan maintenant que tu as vécu une belle édition 2022?
Les deux, en fait, ça a fait tanguer beaucoup. Parce que des fois, enfin, tu es obligé de prendre des décisions qui ne sont pas simples. Le report, déjà, tu vois, tu reportes de mai en octobre, est-ce que tu prends la bonne décision ou pas? Enfin, tu ne sais pas. Parce que la différence avec toi, c'est que quand moi j'ai reporté en octobre 2020, donc avec en fait, on avait une grosse possibilité de le faire. Et puis on a été
Oui, ça a été au dernier moment, tu n'as pas pu, exactement. C'était le coup dur.
Non, mais le jeudi matin, on m'avait dit pas de problème, ça ira, ça passera. Et puis le vendredi à midi, on m'a dit non, quoi. Donc, et tu vois, et en même
Ah, et toi, tu préviens les gens, et du coup.
non, mais encore, tu sais, j'avais senti le truc, enfin, je sais pas, non, j'avais senti, j'avais. Je m'étais dit que tant que ce n'était pas écrit, il ne fallait pas en parler. Tu vois, le jeudi, quand j'étais en train de baliser avec Léonie, quoi. On était en pleine tempête, on était en train de pré-baliser, plus exactement, puisque c'était le jeudi qui précédait enfin, l'événement. Donc, on était en train de pré-baliser et on faisait une vidéo là-haut sur les crêtes. Et j'avais reçu un message comme quoi c'était bon, mais je n'en ai pas parlé à la vidéo, tu vois, t'es en direct et tout, enfin sur Facebook, là,
Oui.
pour vivre, enfin pour faire vivre le pré-événement, quoi. Et là, j'ai bien fait, quoi. J'ai bien fait parce que le vendredi, on nous obligeait à annuler l'événement, quoi. Donc ça a été hyper dur. Et tu sais, enfin, tu sais aussi bien que moi, t'as des gens qui se lâchent, quoi, qui t'expliquent comment il faut faire sur les réseaux sociaux, quoi. Et puis,
Oui, alors qu'ils sont pas organisateurs.
et oui, et puis qui savent exactement les tenants et les aboutissants, qui savent tout, quoi. Donc, ils te disent que.
C'est dommage qu'ils soient pas à tes côtés pour t'aider à organiser le reste du temps.
Ouais, c'est ça. Donc, ils t'expliquent, en plus, on le fait pour l'argent, pour ceci, pour
Eh
cela.
ouais, capitaliste.
Voilà, donc après, quand tu leur dis que tu proposes un remboursement ou ben,
C'est jamais assez.
tu peux pas rembourser 100% parce que tu as quand
Ah
même
ben non, tout ton budget com, il est parti en fumée.
ben, deux fois, en fait, nous on l'a fait trois fois, c'était
Ouais.
on a été reporté enfin, trois fois. À chaque fois, tu mets de la com, tu relances, tu mets de l'énergie. Enfin,
Bah ouais.
Alors, l'énergie, on la facture pas, mais ce que je veux dire, c'est que tu refais le travail, quoi. Donc ça coûte de l'argent. Puis voilà, puis il y a eu de la perte quand tu as annulé une semaine avant. Et encore, j'ai réussi à une demi-heure près d'arrêter le camion avec 29 palettes d'eau, tu vois, qui était en
Ouais,
train de.
ça c'est des trucs que tu te rends pas compte.
Tu te retrouves avec 29 palettes d'eau et tu n'as pas de
C'est
coureur.
énorme, c'est 29 palettes. Ça rentre dans un camion?
Ouais, c'était le maximum.
Ah
Donc,
ouais.
bon, voilà,
Pour nos
après 37 ans.
auditeurs,
Comment?
moi je me fais livrer 7 palettes et déjà on a des restes. Donc 29 palettes, c'est vraiment énorme.
Donc voilà, donc tu vois, en interne, c'est pas. Bon, il y a des gens qui ont. Alors, pas le noyau dur, mais il y en avait qu'on avait justement, on avait fait venir pour élargir le cercle, pour démultiplier les forces. Et puis. Bah, finalement ça leur plaisait les moyens comme décision et puis bon bah, voilà donc c'est pas grave et puis bah tu relances la machine après avoir dû annuler une semaine avant tu relances pour le mois de mai 2021 tu crois et puis pareil de mai 2021 on annule enfin on est obligé de reporter en octobre. Et puis parallèlement à ça, bah, on se dit, tiens, on va créer quelque chose pour répondre quand même à ceux qui vont venir. Parce qu'en fait, on pouvait pas organiser en mai 2021, mais les gens pouvaient quand même venir. C'était un
Oui,
pari.
tu avais fait quelque chose
Donc, on a créé le THP Tour. Mais
de
ça, c'est pareil, c'est pas voilà.
digital.
La course digitale avec Live Trail, mais tout ça, ça coûte.
Ah
Donc,
bah oui, alors c'est quelque chose que je voulais souligner. Hein. Tu as quand même engagé Lifetrail pendant beaucoup d'années. C'est le chronométreur le plus cher hein, sur le marché. Ça, c'est à mettre à ton honneur, à ton crédit.
Depuis 2016. Ouais, depuis 2016, c'est pour ça que on a toujours, comment dire, on a toujours mis les moyens. Bah, je t'en ai parlé au départ sur la sécurité, sur et on a mis les bases d'un événement sérieux et qui pour progresser, pour se développer. Donc dès qu'on a pu, on a fait intervenir les prestataires qui sont reconnus dans le trail et live trail, effectivement, c'est un super outil, mais c'est vrai que c'est cher. Et tout ça pour finir, effectivement, en 2021, voilà, ça peut se faire. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que on s'est retrouvé avec des conditions météorologiques un peu dantesques.
Abominable.
Ouais, donc on savait qu'il y allait avoir de la pluie, mais et du vent, mais on pensait pas que ça soit comme ça. Et puis après, il y a eu un, si tu veux, quand c'est la loi de Murphy, quoi. On a eu un gars qui s'est mal garé dans le petit village de Lardier, qui était le départ du 50 km, et qui a fait prendre 1 heure de retard au départ du 50 km. Donc les gens se sont aussi refroidis.
Oh putain, non mais qu'est-ce que c'est que ça?
Donc voilà, donc ça c'est. Alors après, on peut toujours dire qu'on l'a mal géré. Effectivement, sans doute qu'on avait mal géré. Du coup, on s'y prend autrement maintenant pour le départ. Mais c'était la première fois qu'on faisait le départ de Lardier, qu'on proposait un nouveau parcours. Et on l'a pourtant annoncé maintes et maintes fois au micro. On a demandé au gars de déplacer sa voiture. Il a mis 1 heure, quoi. 1 heure
Ouais, mais si s'est barré, t'es foutu.
Voilà, il bloquait les bus. Donc ça a contribué, on va dire, à rendre la course du 50 km un peu plus compliquée pour ceux qui n'étaient pas bien couverts. Après, on avait aussi annoncé qu'il y avait un matériel obligatoire. Et puis après, il y a toujours ceux qui pensent qu'ils peuvent passer outre le matériel obligatoire et qu'on a retrouvé effectivement dans des comptes. Vous avez froid, quoi. Vous avez
Oui,
froid,
et
donc.
puis du coup, tu perds énormément de temps pour secourir ces personnes-là. Et du coup, tu n'as pas forcément le temps de t'occuper très très bien d'autres personnes qui avaient tout prévu, donc et qui se retrouvent lésées parce que y en a qui n'en ont fait qu'à leur tête.
Exactement.
Ah, c'est toujours, c'est boule de neige, quoi. Hein. Il y a
Exactement,
une
c'est boule
couille
de
qui
neige.
t'arrive dessus et ça en provoque une deuxième. Et...
Voilà. Bon, après,
Enfin, ouais.
de toute façon, après, c'est pas, comment dire, il y en a forcément des choses à améliorer, hein, qu'on soit bien clair. Moi, je ne suis pas partisan de
Oui.
dire qu'on a 100% raison et 100%, tout était bien fait. Il y a des choses à améliorer, mais justement, tu me disais, est-ce que ça a renforcé ou est-ce que ça a fait tanguer? Donc, ça a fait tanguer, donc les deux, et en même temps, ces conditions dantesques à souder l'équipe. À souder l'équipe. Et comment dire, et même ça a révélé des nouveaux talents qui ont rejoint, on va dire, pas le noyau dur, mais qui ont rejoint l'équipe des chefs de poste. Il y a vraiment des gens qui ont adoré, pas les conditions dantesques, mais qui ont adoré l'événement, qui ont trouvé ça vraiment dur, on va dire, pendant la session d'octobre 2021, mais une semaine après. Ils étaient repartis, ils étaient, enfin là, ils étaient remontés à bloc pour le mois de mai, quoi.
Ah, c'est bon ça.
Ouais, c'est bon. Donc des fois c'est un peu dur, hein, comme tu peux l'entendre, c'est pas rien, quoi. Tu peux entendre un petit peu d'émotion dans ma voix, mais du coup de récupérer, comment dire, tous ces gens, toutes ces nouvelles personnes pour renforcer l'équipe. Et toute cette nouvelle énergie, c'est sûr que ça donne de la force pour continuer, pour améliorer l'événement. Et
Juste,
2022, effectivement, on
et
retrouve,
oui, la récompense, juste
on retrouve la
2022.
récompense, mais économiquement, c'est très, très compliqué. Parce que, comme je te le disais, le
Ah.
160, il n'a pas beaucoup qu'on payé leur dossard. Comme on fait 2 éditions en 6 mois, on a quand même moins de coureurs que ce qu'on aurait aimé.
Ouais, puis le boulot est terrible.
Oui, et puis le
Ça doit
bah,
être intense, hein, entre les deux.
ouais, on ne s'est jamais arrêté, quoi. Enfin, depuis on va dire, septembre 2019, jusqu'à mai 2022, on ne s'est pas beaucoup arrêté parce que le fait de reporter en permanence, tu bosses quoi en fait. Tu bosses tout le temps quoi. Et ce n'est pas récompensé de.
Voilà, en fait, tu fais des choses qui ne voient pas le jour, quoi.
Exactement. Et c'est épuisant psychologiquement.
Ah ouais, c'est démotivant, c'est terrible.
Mais voilà. Donc voilà. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je souhaite reprendre, on va dire, un boulot normal, quoi.
Ah, t'as besoin de
Anormal. Je sais pas si.
te souffler un peu.
Ouais. Exactement.
Du coup, on respire enfin. Ce sera plutôt en 2023, alors.
Bah, c'est ça, ouais, parce que si tu veux, moi, c'est ce que j'ai écrit à l'équipe bah, à la fin 2022, qu'on avait retrouvé un THP auquel on était habitué, mais que on y verrait plus clair en 2023, parce qu'économiquement, l'enchaînement 2020, 2021, 2022, c'est dur, quoi. Et encore, on a été, enfin, je peux donner, on a été bien suivi par nos partenaires privés, mais. Aussi et surtout par, enfin pas surtout, on a été très bien suivi par la région et par la Comcom. Et ils ont été à nos côtés, la région Sud et la communauté de communes du Pays de Forcalquier, Montagne de Lure. Et nos partenaires privés nous ont fait confiance, nous ont soutenus et ils ont aussi pris en considération tout le travail qui avait été fait jusqu'à maintenant, qui avait été sérieux et reconnu. Pour éviter de se retirer au moment où c'était difficile. Donc, sans partenaire, on ne peut pas vraiment y arriver. Moi, c'est vrai que sans coureur et sans bénévole, il n'y a pas d'événement, mais il faut jamais oublier que même si c'est de l'argent, et ce n'est pas un gros mot, sans partenaire financier, on n'y arrive pas, quoi.
Ouais, c'est sûr, hein. Toujours les subventions, les trucs, les machins, faut lutter pour, ouais, tout à fait. Ok, Vincent, moi j'ai noté une petite différence. Tu as abandonné après 5 années de bons et loyaux services, Lifetrack pour passer à Lifetrack.
Ouais.
Alors, je les connais bien, Lifetrack, et je sais tout le sérieux qui se cache derrière ce chronométreur peu connu qui va sur peu d'événements, qui vient du Beaufortin, mais qui a travaillé pendant plus de 10 ans sur le Beaufortin, qui est un ultra difficile en termes de réseau et de connexion. Comment tu es passé sur Lifetrack? Comment t'es venu cette idée, Vincent, et qu'est-ce que ça a changé pour toi?
Comme on l'a dit tout à l'heure, en 2022, c'était compliqué économiquement parlant. Donc, Live Trail est une super solution, mais c'est vrai qu'elle est quand même assez onéreuse.
Oui, c'est quasiment 2 fois plus que les autres chronomètres.
Bon, ça, je simplifierai pas le propos comme
Ah ouais,
ça.
pas autant. Ok.
Non, pas autant parce que ça va dépendre de ce que tu prends comme option et tout
C'est
ça.
vrai,
Et
t'as raison. Ouais.
je trouve pas ça bien pour LiveThread que de tenir ces propos-là. Et puis.
Oui, parce que c'est pas pour rien, hein. C'est pas le plaisir de payer, hein. Il y a
Oui,
un vrai
voilà, c'est
service
ça. C'est que
derrière.
c'est toujours pareil. C'est que si, enfin, il y a des, par exemple, il y a des marques de voitures qui sont moins chères que d'autres. Enfin, tu vois,
Oui, mais
ça
oui.
dépend quelle option tu prends et tout ça. Donc.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Donc, mais pour le coup, ce dont on avait besoin était, comment dire, dans la solution LiveTrail, il y avait, voilà, ça nous coûtait trop cher. Il fallait que je voie d'autres prestataires. Donc voilà, j'ai contacté LiveTrail, et puis j'en ai contacté d'autres. Et puis, finalement, ça s'est bien passé avec. C'est bien passé avec Régis, et puis la proposition, effectivement, financière, enfin, le devis qu'il nous avait fait nous correspondait mieux par rapport aux besoins. Et puis, il y avait cette incertitude, qui s'est confirmée sur le nombre de participants. Et on avait un nombre de participants inférieur à ce qu'on avait estimé, comme beaucoup de courses en 2022. Donc, on pouvait pas, voilà, il fallait limiter les risques, quoi, voilà. Limiter les risques. Et comme ça s'est bien passé, enfin, le courant est bien passé avec LiveTrack, ben, voilà, on les a retenus. Mais c'est vrai que c'est une solution intéressante. Mais il y a des choses à améliorer, mais c'est une solution intéressante.
Après, c'est vrai que chaque chronomètreur a un peu sa petite spécificité. Le côté humain aussi, hein, le chronomètreur, c'est pas que de l'informatique, c'est aussi une relation avec l'équipe pendant tout un week-end, surtout sur ton trail, qui est plutôt long. Ok, ouais. Et est-ce qu'ils sont reconduits pour 2023 LiveTrack?
Ouais, on travaille, oui, on travaille,
Ah,
on
super, ça me fera l'occasion de revoir Régis, ça faisait longtemps.
travaille sur une solution globale. Moi, en fait, comment dire, je les ai même mis en contact avec un autre chronométreur pour essayer d'avoir une solution combinée, tu vois. Donc,
Ah.
et en même temps, donc il n'y a rien qui est établi encore complètement, de toute façon, mais par définition. Et en même temps, moi, on a fait un test sur le THP Winter. Tu vois, on a combiné
Ouais.
deux chronométreurs ensemble, dont LiveTrack. Donc, c'est bien.
Ouais, on en a parlé
On
sur
a
la
toujours.
revue de presse du THP Winter. C'était sympa, c'était une belle édition, non?
Ouais, super, super édition. On a eu le double d'inscrits par rapport à l'année précédente, à la première édition. On a eu des
Belle
super,
météo aussi, non?
ouais, super conditions météo. On avait du ciel bleu, de la neige qui était
Ah oui, tu avais eu des chutes de neige juste avant.
ouais, juste avant. Pour te dire, on a balisé le vendredi et on s'est dit il faut peut-être couper une partie du parcours parce qu'on s'enfonce trop, ça va prendre trop de temps, ça va être trop dur. Enfin, notamment sur le 35. Kilomètres, et puis finalement le samedi il a fait très chaud, ça a bien fondu et ça a gelé, donc la neige était juste parfaite le dimanche et c'était top parce que c'est une petite station de ski, mais même c'est plus vraiment une station de ski, c'était la première station de ski des Alpes-de-Haute-Provence. Il y a un téléski qui marche de temps en temps, mais encore ils sont c'est enfin il y a tout un projet de réhabilitation de la station et sans doute pour en faire autre chose que d'une station de ski. C'est pour ça que si tu veux, les activités de pleine nature telles que le trail ou le VTT ou même le cyclisme sur route ont un vrai sens sur cette montagne de Lure. Tout ça pour dire que c'est une montagne très nature et qu'il n'y a pas de dameuse pour damer des pistes, tu vois, pour un trail blanc. Donc, en fait, on a tout fait nous-mêmes à la raquette
Là.
et donc des fois on a l'impression que c'est pas super bien fait tout ça, mais il y a un peu de boulot quand même derrière. On a mobilisé des bénévoles le samedi pour qui avaient prévu de faire autre chose, mais on leur a dit ça serait bien que vous veniez marcher en raquette pour faire la trace quoi, pour tasser et tout ça, mais donc
Ouais,
c'est bien
d'autant plus qu'il y avait quand même un 30 bornes, quoi.
35 quoi, ouais.
35, pardon.
Et il y en aura un 40 l'année prochaine, enfin en 2023.
Ah, le gourmand. Vincent, comme moi, toi, tu apprécies beaucoup l'événement UTMB à Chamonix toute la semaine autour, tu te régales. Et tu aimes piocher des idées, bah, comme beaucoup, hein, c'est sûr que. Qui font avancer un peu la discipline. À un moment donné, tu t'es posé la question d'intégrer ce nouveau circuit UTMB World Series, voilà pour son nom exact. Et ça ne s'est pas fait, comme avec beaucoup d'organisations. Est-ce que tu veux nous en dire un mot sur les tenants et les aboutissants? Qu'est-ce qui t'a attiré? Puis finalement, qu'est-ce qui t'a repoussé là-dedans?
Comme tu le sais, j'ai beaucoup de respect pour la famille Poletti dans son intégralité. D'ailleurs, Michel, Catherine, Isabelle et David que je connais bien et que j'apprécie. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec le. Enfin, je trouve ça intéressant l'UTMB World Series. Après, bien sûr qu'on est en discussion.
D'autant plus que ta course étant un des premiers ultras en France, avec des conditions météo agréables, en mai, aurait vraiment été très belle dans ce paysage.
Oui, exactement. C'est pour ça qu'on avait bien avancé dans la discussion. Mais moi, je trouve ça un petit peu dommage. Enfin, je leur avais dit qu'ils achètent complètement, quoi. Ça, je trouve ça, si tu veux, moi, j'ai construit un truc pendant 10 ans, ou à l'époque, ça faisait 9 ans avec l'équipe. Et je trouvais ça dommage qu'ils acquièrent la totalité, qu'ils bénéficient. De tout le travail réalisé par l'équipe Et ça profite que à une qu'un seul on va dire qu'à une seule partie quoi. Donc autant je trouve très putain. Donc voilà, c'est pour ça que c'était difficile d'accepter de plus être maître à bord quoi. Enfin, ou de plus avoir c'est même plus maître à bord, c'est puisqu'à la rigueur ça peut se comprendre qu'il y ait justement la volonté d'uniformiser les événements UTMB. Enfin, en tous les cas, c'est une façon de voir les choses. On est pour ou on n'est pas pour, peu importe. Dans la mesure où, en fait, les organisateurs d'événements, c'est des entrepreneurs, grosso
Oui.
modo. Et donc, quand tu rachètes à 100% un entrepreneur, bah, tu perds un peu justement la dynamique de l'entrepreneur, puisque tu deviens enfin, salarié ou tu deviens un exécutant. Et je trouvais ça dommage. D'avoir cette approche, on va dire, exclusive du rachat à 100%. Et je me suis aperçu que finalement, bah, ils avaient trouvé d'autres solutions ailleurs. Donc, voilà, bon, c'est dommage, mais après, on verra. On verra comment ça se passe dans le futur. Il faut jamais. La porte n'est jamais complètement fermée. Moi, j'ai vu qu'il y avait d'autres solutions qui avaient été trouvées avec nos amis corses ou avec
Oui, tout à fait. Ils ont un contrat qui est un peu différent.
ouais, et puis avec le travail de Saint-Jacques où c'est quelque chose de tripartite. Donc voilà,
Oui,
un
parce
peu.
que Saint-Jacques est déjà organisé par une structure professionnelle, Extrasport.
Ouais, c'est ça. Et
Alors
puis
du coup, ça doit être encore différent. Tu as raison.
c'est tripartite avec et il y a une collectivité locale qui est impliquée dedans aussi. Donc voilà, après j'ai été un peu surpris de voir qu'il y avait d'autres formes qui avaient été proposées ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Après, c'est sans doute quand tu es sur les plâtres du départ. Et comme bon voilà, c'est comme ça. Mais
Affaire à suivre alors.
toujours, toutes les affaires sont à suivre.
Oui.
La roue s'arrête jamais, c'est ça qui est bien.
Est-ce que Michel était venu courir sur ton trail? Je sais qu'il en fait beaucoup.
Bah, c'était prévu au mois d'octobre 2020. Il y avait une grosse.
Ah ouais.
Non, mais sinon, on a couru ensemble,
Ah
Michel et
ouais,
moi.
t'as vraiment été un des premiers à discuter avec eux alors.
Trois.
Ouais. Ok.
On a couru ensemble avec Michel sur le parcours du 50 km, mais tous les deux sans dossard, quoi. C'est juste que je l'avais
Aïe.
découvert.
Ok. En 2023, je reviens au micro aux côtés de Grand Seb qui a été là en 2021 et 2022. Par rapport à 2019, désormais, on est deux, puisqu'avec la création du 100 miles, ça faisait quand même beaucoup.
Oui, comme vous êtes des petits joueurs, vous n'arrivez pas à ne pas dormir, on est obligé d'avoir deux speakers, quoi.
Et oui, mais parce qu'on refuse la drogue.
Ouais.
Donc ouais, on est deux speakers, du coup c'est assez agréable pour notre travail puisqu'on peut l'effectuer bah, sans avoir des dettes de sommeil, donc en bonne condition. Ludocollet était là en 2021, donc ton événement est quand même très qualité puisque tu t'entoures de prestataires professionnels, on parlait de Lifetrail tout à l'heure. C'est difficile parce que ta course, elle se décale dans le temps, elle suit le week-end de l'Ascension. Et les autres courses restent le deuxième, le troisième, le quatrième week-end de mai. Du coup, chaque année, c'est un peu le casse-tête pour les prestataires parce que on est sur plusieurs événements. Comment tu gères ça? Ça te rajoute de l'incertitude?
Oui, effectivement, ça rajoute de l'incertitude et en même temps, on arrive à avoir un taux de fidélisation assez important parce que
C'est vrai.
bah ça, c'est plutôt à vous de me dire pourquoi, mais enfin, j'ai une petite idée,
Ben moi, si tu veux, ça me plaît pas mal de revenir parce que déjà, cette montagne de Lure, elle m'intrigue. Pour tout te dire, on va y faire un week-end, je pense, fin 2023. C'est très possible. Ce sera soit l'Ardèche, soit la montagne de Lure. Et ça me dépayse un petit peu. Ça fait du bien, ouais, même si pour rien te cacher, Vincent, j'aurais pu travailler à 30 minutes de mon domicile ce week-end-là. Mais vu que tu m'as fait confiance dès 2018, j'estime que tu avais la priorité.
Merci, merci. Mais voilà, je crois que tu as répondu. Le truc, c'est qu'on fait confiance à des prestataires de qualité. Ça,
Oui, je trouve que les conditions de travail étaient tout à fait correctes.
et oui, enfin, ça peut créer de l'incertitude, cette date qui change. Et en même temps, c'est, si tu veux, pour paraphraser l'équipe vidéo, notamment Stéphane Laugier comment dire, de l'équipe vidéo Les Films du Grand Large, quoi, le patron des Films du Grand Large, qui me dit bah, qu'il y a, effectivement, les paysages sont beaux, mais ça, c'est tous les trails, pratiquement, ou dans tous les cas, tous les organisateurs de trails vont dire que leurs trails, c'est les plus beaux. Mais il y a quelque chose de différent avec le THP. Il y a un respect, il y a une ambiance, il y a un truc qui fait qu'on. Il y a quelque chose de différent et en fait, il essaye pour tout dire aussi, il essaye de mettre ça en image en ce moment, tu vois, parce qu'on devrait sortir des vidéos, pas mal de vidéos justement pour essayer de retranscrire ça, parce que forcément, on fait des erreurs, forcément, il y a des gens qui nous ont critiqué, notamment celui. Avait gagné, qui pense avoir gagné la course du 100 miles en octobre 2021 alors qu'elle a été arrêtée. Donc il pense qu'il a gagné la course. Donc voilà. Enfin bon, peu importe. Mais on en fait des erreurs, puis on continuera à en faire. Mais par contre, je pense qu'on peut nous reconnaître cette générosité, cette authenticité et puis cette envie de partager. Donc ça se sent au niveau des bénévoles, ça se sent au niveau des prestataires, des partenaires, puis des coureurs, en sachant qu'on peut pas, on peut pas faire l'unanimité, mais quand on donne avec authenticité, et voilà, et je crois qu'on est vrai et respectueux de tout le monde, en
D'accord.
Donc
C'est.
ça permet de fidéliser.
Ouais. Puis il y a une ambiance avec ce village que tu as su créer sur la place. Moi, j'ai quand même trouvé qu'entre 2018 et 2019, il y avait un vrai ressenti différent quand même.
Alors là, on s'est encore un peu décalé parce que comme justement on a grandi, on est en fait au stade.
Ah oui, exact. J'ai vu sur Trace de Trail en regardant brièvement. J'ai mis quelques petites griffures sur mon Word pour la course. Ouais, effectivement, vous êtes un peu plus à l'est, si je crois bien.
Ouais, c'est ça. Donc
Nord-est.
on a un complexe sport le complexe sportif, pardon. Donc on est capable d'avoir le village à l'intérieur comme à l'extérieur. Cette année, on va se rapprocher de l'ASF, l'association du foot de Forcalquier, pour, on va dire, mettre le village sur le terrain de foot dehors et puis avoir un espace à l'intérieur plutôt pour le repas et les soins. Donc on va essayer de faire grandir le village, justement.
Ah, c'est important ça. Allez, on arrive déjà à la dernière question, Vincent, après 1h30 d'entretien. Alors, c'est ton moment promotion en 2023. Qu'est-ce qu'attend les coureurs du jeudi au dimanche 21 mai? Comment on peut les faire venir? Mets-leur un peu l'eau à la bouche.
Ouais, d'abord, je pense qu'on a raconté la vraie histoire depuis tout à l'heure du THP, donc ça, normalement, ça donne envie, enfin, j'espère. Enfin, c'était l'idée, en tous les cas.
C'est toujours intéressant de connaître l'événement, je pense.
Ouais, je pense, ouais, non, mais c'est moi, quand tu m'as proposé l'idée, j'ai trouvé ça bien et j'ai accepté avec plaisir parce que, effectivement, c'est rare de pouvoir discuter en profondeur de l'événement dans des conditions aussi calmes, aussi sereines, et puis de pouvoir le partager effectivement avec des auditeurs qui sont des coureurs. Donc c'est super. Et ça donne envie de dire, comment dire, bah, tout ce qui s'y passe, tout ce qu'on se fait pour arriver à créer un événement. Donc c'est bien. En 2023, ce qui va... Comment dire? Alors, ce qui attend les coureurs, c'est pareil, hein, 8 courses adultes. Pour le coup, il n'y a pas de changement de course. Alors, pour une fois, il n'y a pas de changement de distance ou rien du tout. Enfin, on a revu les parcours. Si on a revu les parcours parce et justement, on a eu des difficultés l'an dernier avec des propriétaires qui voulaient pas qu'on pâche, enfin, Enfin, qui nous ont changé les 160 km 15 jours avant l'événement. Bon, c'est adapté, c'est pas grave. Donc, on a revu le tracé du 160 km. On va passer par plus de communes de la communauté de communes. Donc, ça, c'est une première chose. Mais on a bien 8 courses adultes et 4 courses enfants. Donc, sur 3 jours. Donc, avec un 8 km, le THP solidaire, donc le Trail Femina Tour que tu as évoqué au tout début, en fait, il s'est transformé en THP solidaire et il permet de récolter des fonds pour la Fondation Maladie Rare. Donc, ça, c'est le dimanche matin à 9 h et on a le 16 km qui est le dimanche matin à 8 h et qui se fait en trail ou en marche nordique. Parce que ça, c'est aussi, on va dire, une des nouveautés. Mais depuis 2022, où on propose le parcours du 16 km et du 30 km en marche nordique pour ceux qui veulent marcher avec des bâtons sur ces distances-là. Et on a un classement à part et un départ décalé de 5 minutes par rapport à ceux qui vont partir en trail.
Ouais, mais c'est pas bête du tout parce que tu vois, autour de chez moi, il y a pas mal de clubs de marche nordique, quoi.
Ben, tu
Enfin, qui
pourras.
du coup sont pas des clubs, c'est plutôt des petites assos, mais
Ouais.
bref, il y a du monde en fait.
Bah, tu pourras aller voilà, sonner le clairon et leur proposer de venir parce que bah, l'idée c'est effectivement d'ouvrir l'événement à un public encore plus large et de donner la possibilité aux marcheurs nordiques de participer à l'événement. Alors, ce n'est pas un format classique parce que j'ai cru comprendre que les formats classiques de courses de marche nordique c'est plutôt des boucles de 6 km ou des trucs comme ça.
C'est
Mais
pas drôle,
l'idée
ça.
c'est. Comment?
C'est pas drôle, ça.
Bon, je ne sais pas si c'est pas drôle. En tous les cas, c'est pas, ça leur appartient. Nous, ce qu'on propose, c'est de pouvoir faire des distances un peu plus longues en marche nordique. Et du coup, on va avoir. En termes de course, ça va être à peu près la même chose qu'en 2022. Enfin, pas à peu près, d'ailleurs, c'est la même chose qu'en 2022. On a juste revu quelques tronçons des tracés pour éviter. D'être embêté par les propriétaires privés. Et c'est d'ailleurs, on essaie de caler tous nos parcours maintenant sur du GR ou du PR pour qu'on ait plus de difficultés.
Ouais.
Donc voilà. Donc le vendredi, il y a le 160 qui va partir. Il devrait partir à 20 h. On hésite encore pour tout dire. Il y a les coureurs qui nous ont fait la remarque. Il y a trois horaires différents sur le site. Ça sera bientôt résolu. On a une réunion d'équipe. La semaine prochaine, et on va finaliser comment dire, la discussion. Mais on devrait partir à 20 h le vendredi soir avec le 160 km. Juste avant ça, il y aura les courses enfants à 18 h. Donc ça, c'est pour le vendredi. Et pour le samedi, on va commencer à 5 h du matin avec le 80, à 7 h avec le 50. Et à 9 h avec le 30 en trail et à 9 h 05 avec le 30 en marche nordique. Voilà pour le samedi et le dimanche, je te l'ai déjà annoncé avec le 16 km en trail et en marche nordique, puis le THP solidaire. Mais les nouveautés, par contre, et on travaille sur la mise en place de concerts le vendredi soir, le samedi soir. Et puis, on travaille aussi sur la
Ça va être quoi?
proposition.
Ça va être du rock, de l'électro?
Ça va être un peu de tout. Un peu de tout, c'est ça l'idée, c'est d'arriver à un
Il y
événement.
aura Booba?
Ouais, il y a Booba, il y a
Taylor Swift.
Maître Gims, Jul.
Oh non!
Comment
Oh,
ça,
pas
non?
Jul.
Pourquoi pas Jul?
Ouf.
Attends. Non, mais bon, ça, un jour, ça serait bien qu'on ait les moyens, mais non,
Bon.
aucun des trois.
Je pense que tu as des petits groupes locaux qui doivent être vraiment sympathiques.
Oui, voilà, c'est ça.
T'en avais un qui bougeait bien en 2019.
Ouais,
Je me
ben.
rappelle t'avoir vu danser, enfin sautiller.
Et du coup, on aura aussi, on va remettre en place un DJ sur les 3 jours. On va mettre beaucoup plus d'animation pour les enfants dans le village. Parce qu'on veut vraiment que ce soit enfin, voilà, attirant pour les enfants. Et puis voilà, on est en train de travailler sur la proposition d'un film, enfin de film de trail pendant 2 h, quoi. Et
Ah, un peu un festival?
Exactement. Donc voilà, on est en train de regarder ça aussi. Et il y a
D'accord.
grande chance que ça arrive. Voilà, donc il y aura une partie, on va dire, parcours un petit peu enfin, identique sur le format des courses, un peu de changement sur les tracés. Donc, ceux qui ont déjà couru, il y aura des nouveautés. Et puis, il y a un accent qui va être mis sur tout ce qui est autour de l'événement, bah, pour rendre l'événement encore plus festif que ce qu'il était jusqu'à maintenant. Et il y avait déjà une bonne ambiance, mais on veut le rendre encore plus festif. Et puis, comme ça va être en même temps que le week-end de la Saint-Pancras, qui est la fête de Fort-Calquier,
D'accord.
il y aura aussi pas mal d'animations dans la ville, donc qui pourront permettre aux coureurs, bah, quand ils en ont un petit peu marre du village THP, de profiter de Fort-Calquier. Il y aura aussi des animations dans la ville, donc c'est vraiment voilà, une bonne occasion de venir et de découvrir le pays de Fort-Calquier, Montagne de Lure. Et puis tous les commerçants de Fort-Calquier, ben, il y en a plein qui nous soutiennent et qui seront contents d'accueillir. Enfin, ça, tu l'as déjà vécu, je pense que tu, à l'arrivée,
Ah,
c'est.
il y a une très bonne boulangerie qui était dans la rue juste à côté de la citadelle. Là, j'y retournerai avec plaisir.
Oui. Et puis, bah, il y a un vrai, comment dire, il y a un vrai vivre ensemble, quoi, un savoir vivre ensemble à Fort-Calquier, une bonne ambiance. Et l'agencement du village est vraiment, comment dire, permet un accueil, permet une visite, permet une balade, enfin, la découverte à pied, qui est, il me semble, assez intéressant et attrayant pour venir participer à l'événement et découvrir on va dire, une nouvelle. Nouvelle, un nouveau lieu.
Ok. Eh ben, Vincent, on a tout dit alors. Rendez-vous au week-end de l'Ascension.
19 au 21 mai et on peut s'inscrire. Et en plus, alors, en plus,
Heureusement qu'on peut s'inscrire.
oui, c'est ça. Bon, en même temps, j'avouerais que moi, j'aimerais bien qu'on puisse plus s'inscrire. Ce serait plutôt bon signe parce que c'est.
Oh non, les gens n'aiment pas après.
Non, mais en tant que. Non, je comprends, mais pour les organisateurs, c'est quand même plus simple. Plus tôt tu as les inscrits, et mieux c'est, ça tu le sais aussi bien que moi. Parce que.
Ouais,
Bah
c'est vrai, c'est du souci en moi.
oui, parce que tu sais où tu vas, tu sais ce que tu as à commander, tu sais. Enfin, c'est quand même mieux hein, quand c'est. Plus les gens s'inscrivent de bonne heure et plus c'est facile à organiser. Mais ce que je voulais préciser, c'est que bah, le THP était à l'initiative de ce qu'on appelle les courses amies. Et quand tu t'inscris aujourd'hui au THP, tu peux bénéficier, enfin, c'est pas que tu peux, c'est que tu bénéficies d'une remise de 10% sur les courses amis. Et aujourd'hui, les courses amis, c'est la Swiss Peaks, c'est le Trail de Serre Chevalier, c'est l'UT4M, et puis c'est l'Ultra 01. Et puis, je crois qu'il y a d'autres courses qui vont rejoindre ce cercle de courses amies du THP. Et en fait, quand tu es course amie du THP, ben, tu es aussi course amie des autres. Et du coup, à chaque fois que tu t'inscris sur une des courses, ben, tu as 10% de remise sur les autres. Donc, ça, c'est nouveau. On a coordonné ça avec ben, les courses que je viens de citer en fin d'année. Et voilà, on va continuer. Et on va intégrer d'autres courses. Je crois que tu es au courant de ça. Voilà, et ça nous permettra aussi de communiquer auprès de la communauté et puis de faire bénéficier de tarifs privilégiés à ceux bah, qui s'inscrivent sur les courses amis.
Ok, impeccable. Et oui, il devrait normalement y avoir le trail Nivolet Renard.
Exactement.
Voilà, avec beaucoup de plaisir. On a pu t'accueillir. Vincent, en 2019, il faisait mauvais, c'était dur pour nous aussi, mais tu auras le droit de revenir, peut-être il y aura du soleil.
Bah oui, il paraît que de temps en temps ça arrive chez toi.
Bah, malheureusement, c'était l'an passé le soleil, donc
C'est
statistiquement,
ballot. C'est tous les 6 ans, c'est ballot.
statistiquement, c'est une année sur trois, j'ai fait la moyenne depuis 2003.
Ouais.
Mais bon, ça, je ne le dis pas au coureur.
Super.
Voilà. Et bah, je te
Bon.
remercie de ton temps, Vincent.
Merci à toi.
On se retrouvera bien sûr pour ton événement. Je te souhaite d'ici là, à toi et à ton équipe, beaucoup de courage pour mener à bien vos missions.
Bien, merci, puis merci pour ce temps. C'est vrai que c'est une vraie belle respiration et c'est bien. Merci et merci de mener les entretiens, interviews, je sais pas comment ça s'appelle, comme tu le fais, parce que c'est très
Ah,
agréable.
d'ailleurs, Vincent, si les gens ont apprécié ta saine parole, tu avais été interviewé dans le Let's Try podcast, il me semble.
Oui, c'est ça. Ouais.
Ah, on peut te retrouver, ouais. Tu n'as pas le numéro en tête, lequel c'était, non?
De mémoire, c'est 37, quoi.
Ah ouais, le mec est bon. J'essaye de regarder un petit peu en même temps. Mais... Il en a fait quand même 160, le garnement, là. Nicolas Guinoff, il était venu courir sur ton événement?
Et il devait, et puis
Ah, il faut qu'il vienne cette année alors. Il
exactement,
habite pas loin,
je crois qu'il est vraiment voisin, ouais. Effectivement.
hein. Exactement. Let's Try Podcast numéro 37, Vincent Gilliani.
C'est ça.
À retrouver sur Spotify. Ouais, super. Bah, merci Vincent.
Merci à toi, Hugo. À bientôt
À
et puis encore
bientôt.
bonne année.
Salut, bonne année, bien sûr.
Ciao.